Nous te rendons grâce, notre Dieu, notre Père, pour ton amour. Nous te rendons grâce pour ta miséricorde, pour ton pardon renouvelé dans nos vies, jour après jour. Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Merci pour ta grâce qui nous relève. Et merci pour ton esprit qui nous sanctifie. Ta parole, Seigneur, est lumière. Ta parole est nourriture qui nourrit nos vies. Puisse ton Saint-Esprit, Seigneur, éclairer nos intelligences, ouvrir nos cœurs, pour que nous puissions être enseignables ce matin encore. Tu nous as déjà tant parlé et tu veux encore le faire. Que nous puissions avoir une oreille creusée par toi pour écouter comme écoutent les disciples. Petits et grands, nous voulons être au bénéfice de ta parole, une fois encore. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas assisté à l'ouverture des Jeux Olympiques. J'étais en Lozère, dans un endroit au vert, où il n'y avait même pas tout à fait une connexion Internet disponible à gogo, et c'était bien ainsi. Et je suis rentré, et j'ai découvert que les cérémonies d'ouverture et même récemment de clôture des récents Jeux Olympiques de Paris 2024, n'ont pas laissé indifférents les téléspectateurs. Là où certains ont vu une cérémonie grandiose, éblouissante, qui a cassé tous les codes, c'était par exemple comme ça que Libé avait titré son hebdo, d'autres observateurs, il faut le reconnaître, notamment des chrétiens, mais pas que, ont aussi exprimé, outre quelques mots pour dire qu'il y avait du beau, ont aussi exprimé leur indignation au regard de certains choix, dont un tableau qui a semblé être une parodie de la scène du Christ, du repas du Seigneur que nous venons de partager et qui est un point important de notre foi. Dès lors, on peut s'interroger, et beaucoup n'ont pas manqué de le faire, dans le contexte d'une société pluraliste, sécularisée, méthodiquement travaillée par un idéal humaniste distancié du référentiel religieux, faut-il vraiment s'étonner des partis pris d'une scénographie résolument ancrée dans des mythes humains ? Si certains se trompent de liberté et de fierté, jusqu'à tourner en dérision la foi de quelques-uns de manière intentionnelle ou ambiguë, les chrétiens, quant à eux, ne doivent pas se tromper d'indignation, ni s'embarquer dans des polémiques aussi puériles que stériles. Ils sont, nous sommes, me semble-t-il, appelés par le témoignage biblique à ne pas nous tromper de vocation ou de mission. Je vous propose non pas une exégèse de l'ouverture et de la clôture des Jeux Olympiques, que m'importe, je vous propose de méditer un extrait de la seconde lettre de Paul à Timothée en son premier chapitre, les versets 6 à 14. 2 Timothée 1, 6 à 14. C'est pourquoi, je te le rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi sont prisonniers, mais souffrent avec moi pour l'évangile en comptant sur la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan de sa grâce, qui nous a été accordé en Jésus-Christ de toute éternité. Il nous l'a fait connaître maintenant, et qui a maintenant été révélé par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile. Évangile pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'enseigner les non-juifs. Et encore, voilà pourquoi j'endure ces souffrances. Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a le pouvoir, la puissance de garder le dépôt qu'il m'a confié jusqu'à ce jour-là. Prends pour modèle les saines paroles que tu as entendues de moi dans la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, garde le beau dépôt qui t'a été confié. Il s'agit de la dernière lettre écrite par l'apôtre Paul. Et c'est la raison pour laquelle cette deuxième épître de Paul à Timothée est souvent considérée comme le testament spirituel de l'apôtre Paul à son protégé, fils spirituel, Timothée. Au moment où Paul écrit cette lettre, il est prisonnier à Rome à cause de l'évangile qu'il annonce. Et il envisage clairement que cette incarcération pourrait le conduire jusqu'au martyre, jusqu'à la mort. Mais même dans cette épreuve, l'apôtre Paul n'est pas tant préoccupé par sa situation personnelle que par la situation des églises qu'il a implantées, en particulier dans la région d'Éphèse, où il a laissé son bien-aimé fils en Christ, Timothée. Nous sommes au tournant des années 60, certains spécialistes parlent de l'an 66 après Jésus-Christ. Timothée, nous le savons peut-être, pour les uns, assurément pour d'autres, est l'un des compagnons de Paul sur lequel nous avons beaucoup d'informations qui nous sont données par les Écritures. Nous savons qu'il est le fils d'une croyante d'origine juive et d'un père grec, et cette lettre nous donne d'autres informations, même concernant sa grand-mère, dont on sait qu'elle s'appelle Loïs, et sa maman s'appelait Eunice. Vous voyez, je n'ai pas cherché bien loin quand nous avons nommé notre troisième Eunice. Timothée a dû se convertir à Lystre au cours du premier voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Paul le prend sous son aile comme son père spirituel, et Paul lui rappelle souvent les prophéties prononcées à son égard, et lui rappelle, comme on va le voir ici aussi, l'imposition des mains dont il a bénéficié de la part des anciens et de lui-même Paul. Il a fait une belle profession de foi devant de nombreux témoins. Bref, c'est un disciple apprécié, c'est un disciple affermi et qui s'attache à suivre les enseignements de Paul, de son mentor d'une certaine façon pour parler avec les termes d'aujourd'hui. Mais Timothée est aussi un jeune pasteur qui a ses propres fragilités. Pas seulement celles qui pourraient être liées d'ailleurs à son âge, à sa jeunesse, mais il semble aussi avoir une santé fragile et un tempérament plutôt timide. À Éphèse, Timothée rencontre de nombreuses difficultés à l'intérieur comme à l'extérieur. À l'intérieur de l'Église, Il est confronté à de faux enseignements qui s'y répandent. Certains, peut-être même parmi les responsables, annonceraient que la résurrection finale a déjà eu lieu. D'autres sont passionnés par toutes sortes de discours, de fables, de généalogies, de discussions sans fin. Les moins affermis s'en trouvent déstabilisés dans leur foi et l'Église est menacée de rupture à l'intérieur. À l'extérieur, c'est-à-dire en dehors de l'Église, dans la société générale, les autorités romaines et les responsables du temple d'Artémis, une divinité païenne, ne manquent pas à l'occasion d'attaquer les chrétiens. Nous le voyons très bien en chapitre 19. Bref, la situation n'est pas facile, elle est critique. Et Timothée serait découragé et peut-être même au bord de jeter l'éponge. Vous est-il arrivé d'avoir envie de jeter l'éponge? Si oui, vous allez comprendre Timothée. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul lui adresse cette deuxième lettre. Et dans cette deuxième lettre, il veut l'encourager, l'inviter à persévérer fidèlement dans sa vocation. Il veut qu'il se détourne de ces discussions vaines, de ces débats dont sont friands celles et ceux qui passent à longueur de temps leur journée à discourir, à épiloguer sur les phénomènes spirituels, sur la position des anges, on dirait sur le sexe même des anges. L'apôtre Paul sait que c'est bien là une débauche d'énergie inutile et qui doit nous dire quelque chose dans un contexte de bouillonnement. Certains ont parlé de logorée, c'est-à-dire de diarrhée verbale, de mots, mais aujourd'hui c'est plutôt du clavardage, c'est-à-dire que c'est avec nos claviers sur les réseaux sociaux que nous clavardons, nous bavardons à longueur de journée, en différents forums, au son de tel ou tel prophète. Nous sommes en réaction. Je suis impressionné par le nombre de vidéos que je vois passer dans tous les groupes WhatsApp où je suis. Chacun y va de son interprétation, de son discernement du satanisme ou non. Et en fait, je trouve que les chrétiens perdent énormément d'énergie sur des choses qui véritablement n'en valent pas la peine. Alors, l'apôtre Paul voudrait encourager Timothée, qui est timide et peut-être même est presque au bord de la lâcheté. Peut-être se pose même-t-il la question, est-ce que les autres qui ont abandonné Paul? Dans la deuxième épître à Timothée, l'apôtre Paul ne se prive pas de dire qu'il est abandonné de beaucoup, que certains même se sont détournés par amour du siècle présent. Ça peut arriver. Et Timothée aurait-il honte d'être le disciple, le fils spirituel d'un apôtre affaibli, éprouvé, emprisonné? Paul ne veut pas que Timothée ait honte. C'est le premier point de son exhortation. N'aie donc pas honte. Mes amis, quand avez-vous eu honte en tant que chrétien pour la dernière fois? Je ne dis pas « avez-vous eu honte ?» Je dis « quand ?» Je présuppose que vous avez déjà eu honte. Pas seulement en tant qu'être humain, mais en tant que chrétien. Quand avez-vous eu honte en tant que chrétien ? Pour la dernière fois. De qui ? De quoi ? Pourquoi ? Réfléchissez-y. L'Église peut nous faire honte en tant que chrétien. J'ai souvent eu honte, comme chrétien et comme pasteur, de l'Église, du Christ. Alors, on va dire pas notre Église, mais trop bien, n'est-ce pas? Sinon, vous allez m'en vouloir. De l'Église. Lorsque elle est confondue dans la société, par son témoignage, à l'opposé de sa foi. Honte d'être témoin d'un certain nombre d'abus spirituels dans les églises. Honte d'abus sexuels. Honte d'abus d'autorité. Honte. Oui, l'Église peut faire honte. Avez-vous déjà éprouvé de la honte en tant que membre d'une Église? Honte des rivalités, des luttes de pouvoir. Honte de voir autre chose que la foi que nous professons, que les valeurs bibliques que nous chantons ou que nous aimons. En tant que chrétiens, nous pouvons aussi avoir honte lorsque notre conduite personnelle contredit notre foi. Lorsque, pour parler comme des théologiens, l'orthopraxie, la pratique, la vie chrétienne dément l'orthodoxie que nous confessons. Oui, je plaide moi aussi coupable. Premier des pécheurs, la vie de mon frère. Oh, t'es pas seul dans ce champ à être touché. Oui, parfois, nous bronchons, nous trébuchons même. Mais gloire à Dieu, que nos chutes, même lourdes, ne soient pas des chutes définitives, parce que par sa grâce, il nous relève. Dans une société où beaucoup de nos contemporains se représentent les religions comme un problème pour la cohésion sociale, je ne sais plus quel dernier sondage, où plus d'un Français sur deux considère que les religions sont problématiques, qu'elles ne concourent en rien à la paix sociale, au contraire, qu'elles seraient facteurs de déstabilisation de la cohésion sociale. Il est vrai que dans un tel contexte, si on intègre une telle perception, on pourrait avoir honte de sortir du bois, d'assumer qu'on est croyant, plus précisément qu'on est chrétien, et même, allons un peu plus loin, que le dimanche, au lieu d'aller faire du vélo, j'ai rien contre ceux qui font le vélo le dimanche, hein. Il y a certaines heures où c'est peut-être pas incompatible avec aller dans une église. Il y a plein de sportifs, y compris chrétiens, qui font du vélo, de la moto le dimanche. Donc, ne prenez pas ça comme étant la stigmatisation de quelques-uns. Attention. Je veux dire simplement, oui, parfois c'est compliqué de dire où on a passé 2 heures le dimanche. Comprenez ça. Parce qu'on se dit que nos collègues vont nous moquer, vont nous regarder comme une sorte d'étrangeté. On peut avoir honte du Christ et de son Église à l'école, au travail, dans l'association de quartier ou de sport que je fréquente, auprès du voisinage. L'apôtre Paul veut nous exhorter avec Timothée à ne pas avoir honte. Et je me dis qu'au lieu de passer son temps à ingurgiter des vidéos, tantôt complotistes, tantôt outrancières, et quand bien même cette vidéo dirait vrai sur l'état spirituel du monde, je me dis, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça ne vaut pas plutôt la peine de nous concentrer sur notre propre témoignage, plutôt que d'être en réaction sans cesse, et de passer pour des rabat-joie? Est-ce que ça ne vaut pas plutôt la peine de se concentrer? Parce que ça ne va pas nous rendre meilleurs, ce n'est pas parce qu'on va constamment déverser des choses terribles sur le monde que ça nous rend meilleurs. Au contraire, c'est un aveu d'échec. Sommes-nous vraiment la lumière du monde? Brillons-nous vraiment de la lumière du Christ? Il y a un effort intellectuel et spirituel à faire pour ne pas avoir honte du Christ dans les temps que nous traversons. Et l'apôtre Paul va donner quelques recommandations à Timothée. Verset 15 de Timothée 2, je vais dans un autre chapitre, mais je reviens vite. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme, une femme, on pourrait dire aussi aujourd'hui, si on transpose à nous, qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de la vérité. » Ce n'est pas seulement une parole pour les pasteurs, pour ceux qui prêchent. C'est une parole, je pense, oui, certainement pour les responsables d'abord, mais pas que. C'est une parole pour tous les chrétiens. Est-ce que j'expose avec droiture la pensée de Dieu? Est-ce que je me donne les moyens? Est-ce que je m'efforce de la comprendre? Est-ce que je m'efforce de la questionner, de la contextualiser? Est-ce que je m'efforce dans la vie que je donne sur le monde en tant que chrétien d'être juste? Ou alors est-ce que je me laisse embarquer par les vagues d'émotions et d'hyper-réactivité et que, voulant donner la parole de Dieu, en fait, je ne déverse que mes propres frustrations et mes propres émotions et négativité? Vous savez, ce n'est pas nos paroles qui sont paroles de Dieu. Ce n'est pas la vidéo YouTube de je ne sais pas quel homme de Dieu ou femme de Dieu ou quel prophète. J'en connais 5 en France, ils sont toujours les mêmes, ces pasteurs de méga church auxquels on nous renvoie sans cesse. À qui j'ai sous-traité ma foi? À qui j'ai sous-traité mon intelligence pour sonder moi-même l'écriture et de ne pas être simplement un perroquet de ce que les autres disent à YouTube et par quels réseaux sociaux que sais-je encore? L'apôtre Paul dit à Timothée qu'il a besoin de s'efforcer. Il y a un combat spirituel. Et il dit, efforce-toi à te présenter devant Dieu. C'est peut-être là le premier lieu de notre défi. Est-ce que je me présente devant Dieu? Est-ce que je m'efforce à me présenter devant Dieu chaque jour? Quand je me réveille, c'est quoi mon premier réflexe? Quand je me couche, c'est quoi mon réflexe et ma routine? Efforce-toi à te présenter devant Dieu. Est-ce que ces réseaux sociaux, est-ce que tout ça, ce clavardage, ce bavardage, m'aide à plus me présenter devant Dieu comme une personne qui n'a pas à rougir de honte? Remarquez qu'avec moi, ça ne va pas trop se voir. Ah, j'aime ça. Il faudrait avoir un peu d'autodérision. Mais vous, mes frères, vous risquez de rougir ou de bleuir. De peur, ça dépend des émotions, gens de couleur. Comment tenir bon et ne pas se laisser dévier, ne pas dériver? Apôtre Paul donne une deuxième recommandation à Timothée. Après lui avoir dit « n'aie pas honte », il va l'aider à comprendre. Comment ne pas voir? Ravive, ranime la flamme du don que tu as reçu de Dieu. C'est pourquoi je te le rappelle, ranime, garde bien vivant le don que Dieu t'a accordé quand j'ai posé les mains sur toi. Le verbe grec employé par Paul signifie littéralement « attiser le feu ». Et nous savons que pour qu'il y ait feu, il faut la combinaison de 3 choses. Il faut un combustible, par exemple le bois, mais vous pouvez imaginer d'autres choses. Il faut une source de chaleur, une étincelle par exemple. Mais il vous faut aussi de l'oxygène. Et alors, vous avez un feu qui prend. Mais un feu se nourrit, un feu s'entretient. Et Timothée était presque en train d'être étouffé par les soucis de son ministère. L'Église l'étouffait. À force d'être travaillé par toutes choses sauf l'essentiel, il étouffait. En tant que pasteur, il disait, mais je ne comprends plus à quoi j'ai dit oui. Pourquoi servir des gens qui ne cherche pas l'essentiel? Suis-je vraiment, ai-je donné ma vie à Christ pour le servir, pour être sûr des choses accessoires? Ça l'étouffait, ça l'accablait. Il manquait presque d'oxygène. Mettez une cloche au-dessus d'une bougie et vous ferez l'expérience que tous les enfants font un jour à l'école. Elle s'éteint. Elle s'éteint. La flamme vacille et elle s'éteint. La pression dans l'Église ou la pression dans le monde risque de faire vaciller et d'éteindre ce souffle. Timothée a reçu, lui dit l'apôtre Paul, un don et ce don peut l'aider. Ce don qu'il a reçu est en rapport avec sa vocation. Il est appelé à proclamer la parole de Dieu et il a reçu pour cela un équipement. Le Saint-Esprit lui a été donné et ce Saint-Esprit est capable de vivifier sa foi, d'oxygéner sa vie. Amen. Est-ce que je laisse l'Esprit du Seigneur vivifier, oxygéner ma vie? Est-ce que je collabore à cette oxygénation? Est-ce que je me sers du combustible que Dieu m'a donné, sa parole, et pas que, pour nourrir ma vie? Et nourrir ce feu de l'esprit. Qu'ai-je fait de mon don, de mes dons? Est-ce que j'ai creusé un trou, j'ai enterré, basta, blessé par l'Église, déçu par les frères et sœurs, déçu par le monde. Maintenant, je m'assieds, j'attends, je compte, ça passe. Ou alors, et maintenant, je deviens un observateur très affûté de la vie de l'Église et je distribue les points, les bons, les mauvais, les bons, les mauvais. Est-ce bien ça la vocation chrétienne? Si c'est ça, ça n'en vaut pas la peine. Ça ne donne pas envie, reconnaissons-le humblement. Une chose, c'est de savoir qu'on a reçu un don. L'autre chose, c'est de connaître ce que nous avons reçu. C'est le deuxième conseil que Dieu donne à Paul, que Paul donne à Timothée. Est-ce que tu connais l'esprit qui t'anime? Quel est l'esprit qui t'anime? Timothée commençait à être bloqué dans son ministère par un esprit de timidité, par un esprit de lâcheté, par un esprit de découragement, par un esprit d'abandon, de défaite. Et l'apôtre Paul lui dit, tu peux être sûr que ce n'est pas ça le don que tu as reçu. Dieu ne te donne pas un esprit de timidité. Dieu ne te donne pas un esprit de lâcheté. L'apôtre Pierre, à un moment de sa vie, a été saisi par cet esprit de lâcheté. Lui qui était impétueux, audacieux, ça lui est arrivé à lui aussi. Seigneur, je serai avec toi, prêt à mourir. Si tous t'abandonnent, moi, je serai avec toi. Jésus l'a aimé et par avance lui a dit, tu me suivras, mais je te le dis, avant que le coq n'ait chanté trois fois. Avant que le coq n'ait chanté trois fois, tu m'auras régné. Et Pierre a chuté. Quand sa vie a été menacée, il a dit, je ne connais pas cet homme. Je ne le connais pas. Mais toi, tu étais... Non, vous faites erreur. Je ne connais pas. Ce n'est pas moi. Heureusement que Dieu en Christ était là pour réconcilier les hommes envers lui-même. Le Christ n'a pas abandonné Pierre à son reniement. Nous renions le Christ de bien de manière. Quelqu'un a lu Romains chapitre 10. Est-ce que tu confesses de tout ton cœur Jésus? Est-ce que tu es prêt à rendre publique cette confession de foi? Pierre, le grand Pierre, a été là aussi l'apôtre fragile. Il a dit, je ne le connais pas. Et plein de nos comportements disent que nous ne le connaissons pas. Et plein de nos paroles que nous déversons sur les réseaux sociaux disent que nous ne le connaissons pas. Nous le renions tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur veut nous restaurer. Il vient comme il est venu vers Pierre et lui dit, m'aimes-tu? Et à trois reprises, il lui dit, Seigneur, tu sais que je t'aime, dans Jean 21. Et Dieu dit, j'ai confiance en toi, Pierre. Ta chute ne te définit pas. Ta chute n'est pas définitive, je te réhabilite. Et je te mandate parce que Dieu ne se repent pas de ses dons. Paie mes brebis. Peut-être que tu as déposé ce don. Peut-être que tu ne veux plus t'en servir parce que tu as été blessé. Mais Dieu ne se repent pas de ses dons. Quelle que soit ta place dans l'Église, quel que soit où tu es, Dieu veut se servir pleinement de ce don qu'il t'a donné. Alors rallume le feu par la connaissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas un esprit de lâcheté, ce n'est pas un esprit de timidité, mais quel esprit donc m'anime ou devrait nous animer? Un esprit qui nous donne au moins trois biens, et la liste n'est pas exhaustive. Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides, mais au contraire, cet esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Un esprit qui nous remplit de force. Arrêtons-nous un peu sur ces trois aspects. Le Saint-Esprit, c'est toujours bien de le rappeler, n'est pas une puissance impersonnelle, une énergie vaporeuse. Il est primordial que les chrétiens soient enseignés et comprennent que le Saint-Esprit est une personne. C'est la troisième personne du Dieu un et trinitaire que nous adorons. Et qu'en tant que personne, il est capable de vouloir, de volonté et d'interaction avec nous. Et l'apôtre Paul dit que lorsque nous interagissons avec le Saint-Esprit, alors nous comprenons. Timothée n'abandonne pas le contact avec l'Esprit de Dieu. Timothée demande à l'Esprit de Dieu de te remplir. Et Dieu l'a déjà fait. Il ne dit pas « inscris-toi à un séminaire pour le recevoir ». Les verbes sont conjugués à un temps qui est déjà accompli. L'Esprit que nous avons reçu, l'apôtre Paul s'inclut. Il ne fait aucun doute que Timothée l'a reçu. Il ne s'agit pas de s'efforcer pour le recevoir. Il ne s'agit pas de s'inscrire à tel séminaire pour le recevoir. Il s'agit de le proclamer, de le croire et de le vivre. C'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il nous remplit non pas d'une force qui viendrait de nous-mêmes, mais de la force qui vient du Seigneur. Norbert nous a parlé dimanche dernier de Daniel, qui a unifié sa vie en la tissant par la prière devant Dieu, parce que c'est là, devant le trône de Dieu, que nous pouvons recevoir cette puissance. Le mot ici en grec, vous le savez, dynamis, la dynamite, la dynamique, l'énergie n'est pas en nous. Oh, je me souviens d'un vieux cantique qui disait « Veux-tu briser du péché le pouvoir ? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang du Christ. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon Sauveur. » Oui, c'est de cette force-là qui n'est pas en nous, mais qui est en Jésus-Christ. Étienne, dans le livre des Actes, a été rempli du Saint-Esprit. Et cette plénitude du Saint-Esprit, c'était de lui donner comme une sœur à prier, de l'audace et de la hardiesse pour témoigner de Jésus. Et même quand il voyait ces personnes avec les pierres en main prêtes à le lapider, dans la plénitude du Saint-Esprit, il n'a pas vu un chemin pour fuir. Il a vu le ciel ouvert. Il a vu Jésus devant le trône. Et Paul était de ceux qui avaient associé leur voix pour lapider Étienne. Et ce jour-là, il a vu que ce n'était pas un esprit de timidité ou de lâcheté, mais un esprit de force que Étienne avait reçu pour aller jusqu'au bout de sa vocation. Le Seigneur ne nous épargnera pas les souffrances, mais pas revêtu de son esprit, il nous donnera l'assurance de son amour et de son secours. C'est un esprit d'amour. L'esprit du Seigneur n'est pas un esprit qui nous remplit d'aigreur, d'acide caustique, de paroles de malédiction, y compris à l'égard des détracteurs de la foi chrétienne. Le Seigneur est assez grand pour se défendre lui-même. Le Seigneur ne nous a pas établis inquisiteur ou ayatollah ou défenseur de son évangile. Puisque l'esprit qui nous est donné est donc un esprit qui nous remplit d'amour, je pense que nous chrétiens, nous devrons être connus et reconnus simplement comme des gens qui aiment les autres. Est-ce que c'est comme ça qu'on te connaît ? Es-tu connu par ton entourage comme quelqu'un qui aime les autres ? Nous nous indignons, à géométrie variable d'ailleurs. Mais est-ce que nous sommes appelés à être connus de notre société uniquement comme des gens qui s'indignent ? Je prie pour que dans ces temps déboussolés, où tout est hystérisé, que les chrétiens dont je suis soient revêtus de la plénitude de cet esprit d'amour agapé. Aimer, selon le Seigneur, ne veut pas dire tout accepter. Aimer selon le Seigneur ne veut pas dire appeler ce qui est mal bien. Aimer selon le Seigneur ne veut pas dire être dans l'hypocrisie. Mais je crois qu'il y a un regard que nous posons sur la société qui parfois manque d'amour selon le Seigneur. Quand vous l'aurez tant craché dessus, tant méprisé cette société, comment aurez-vous encore l'envie de l'aimer ? Je crains, mes frères et sœurs, que les chrétiens soient de plus en plus inaudibles. Parce que quand ils ouvrent la bouche, on ne les entend que comme des gens contre, comme des rabat-joie, comme des gens enfermés dans une gravité d'une inquiétude apocalyptique, comme des gens qui ont peur et qui distillent la peur. Je crois que si c'est ça notre moteur, notre évangélisation n'est pas recevable. Je crois qu'on accepte que les gens nous parlent et même nous reprennent lorsqu'on sait qu'ils nous aiment. Mes enfants m'écoutent, même quand ils sont repris, parce qu'ils savent que je les aime. Que l'Église du Christ, qui n'est pas partisane, dans ces temps, soit connue de notre société comme un peuple qui aime. Et l'apôtre Paul pouvait dire, l'amour du Christ nous presse et nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Ce n'est pas pour botter en touche l'appel à la repentance ou à la conversion, mais la motivation de l'amour doit être première. Ce n'est pas un esprit d'arrogance, mais un esprit d'amour. Et enfin, je termine, un esprit de sagesse. Dans d'autres traductions, c'est même un esprit de maîtrise de soi. Le mot grec, qui est ici un mot composé que l'apôtre Paul utilise, évoque justement cette sérénité paisible du croyant. L'Éternel règne. Même si le monde chancelle, il règne. Je peux avancer en sérénité, en sécurité. Et il me semble que cette maîtrise de soi, les chrétiens doivent le mettre au bénéfice de la mission. Pour nous, la maîtrise de soi, la tempérance, c'est un fruit de l'Esprit Saint. Donc ce n'est pas étonnant qu'on ne la rencontre pas beaucoup dans ce monde. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'on la rencontre de moins en moins parmi les chrétiens. Regardez vos postes. Où est la maîtrise de soi? Où est la tempérance? Où est cette sagesse qui est modérée, qui est pacifique, qui est conciliante d'après ce que Jacques nous dit? Frères et sœurs, ne nous laissons pas emporter de manière intempestive par tout ce que charrie notre société. Ne nous laissons pas installer à la remorque de ce cortège de gens qui passent leur longueur de temps à bavarder, à faire du bruit. La promesse n'est pas dans notre intempétuosité. La promesse du Seigneur, au contraire, n'est-ce pas que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Les réseaux sociaux sont devenus des mégaphones dont tout le monde se sert pour crier au loup. Les chrétiens devraient être, même sur les réseaux sociaux, ceux-là qui ont une parole modérée, une parole qui cherche toujours un juste équilibre et qui cherche à donner envie de savoir « mais pourquoi celui-là ne se laisse pas hystériser ?» Que votre parole soit assaisonnée de sel, donner envie aux autres. C'est dit, mais pourquoi celui-là ne parle pas comme les autres? Même quand il n'est pas d'accord, la façon dont il exprime son désaccord donne envie d'en savoir plus. Accepter enfin de prendre part à la souffrance est un enseignement que Paul donne aussi à Timothée. On peut avoir honte de l'évangile du Seigneur parce qu'on veut esquiver la souffrance. Notre société a atteint un niveau de confort où on veut évacuer absolument toute souffrance. Comprenons-nous bien, la souffrance n'est pas quelque chose dans lequel le chrétien doit se complaire. Nous ne recherchons pas la souffrance. Il n'y a aucune exhortation biblique qui dit « chercher la souffrance ». Nous ne sommes pas des gens qui se disent « oh, bienheureuse souffrance qui me rapproche de Dieu ». Ce n'est pas ça notre catéchisme. Mais il y a un autre catéchisme qui n'est pas non plus le nôtre, qui te dit toujours tout ira bien. Avec mon Dieu, tu sais, tout ira bien. Hein, avec mon Dieu, jamais bobo, avec mon Dieu, jamais problème, jamais souffrance, jamais rien. On veut évacuer par nous-mêmes le problème et la réalité de la souffrance. Ça aussi, ce n'est pas biblique. Entre les deux, il y a un chemin, et ce chemin a été incarné par le Christ lui-même. Un chemin d'abandon et un chemin où chacun marche sous la croix. Et Jésus ne nous l'a pas caché. Celui qui veut venir à ma suite, qu'il marche sous la croix, qu'il porte sa croix. Et c'est ce que Paul est en train de dire à Timothée. Souffre avec moi. Souffre avec moi l'évangile. Et Paul peut le dire. savez, ce n'est pas simplement ceux qui disent « souffre, souffre », mais qui ne portent pas les marques de l'apostolicité. Beaucoup s'appellent apôtres aujourd'hui, mais ils vivent royalement bien, souffrent jamais. Les chrétiens, par contre, qui sont sous leurs apostolats, souffrent. Tout leur glisse dessus. Mais regardez vraiment l'apostolicité à la lumière de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'ils en ont bavé? Et l'apôtre Paul dit « souffre avec moi ». Et il peut le dire, disais-je, parce que lui-même, il a souffert et il souffre au moment où il écrit. Il est prisonnier et il va mourir, martyrisé. Et pourtant, il dit à Timothée, je suis prisonnier de Jésus. Il n'est pas prisonnier comme malfaiteur. Il n'est pas prisonnier parce que Rome a gagné contre Jésus. Mais il est prisonnier parce que l'évangile l'a amené jusque-là. Il n'a pas accepté de se dédire. Et il va habiter sa souffrance comme un espace d'espérance. Sa souffrance ne devient pas une fatalité, un conditionnement l'empêchant à réaliser sa mission. Sa souffrance devient même un moyen aussi de continuer de briller. Puisque par son incarcération, il l'écrira, l'évangile est arrivé dans tout le prétoire jusqu'à Rome. Que le Seigneur, là aussi, comme nous avons commencé ce culte avec ce petit renard qui est tombé dans un trou, puis que le Seigneur élargisse notre regard, y compris sur la souffrance, que nous ne voyons pas seulement la douleur inhérente à celle-ci, mais que nous voyons l'enjeu du royaume, la capacité à rendre témoignage au Seigneur, comme les amis de Daniel, lorsque nous sommes dans la fournaise. Parce qu'ils n'étaient pas trois dans la fournaise, ils étaient quatre. Le Seigneur est avec nous, nous l'avons chanté. Que le Seigneur nous bénisse, frères et sœurs. Amen.